Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais commencer en remerciant les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à partager mon expérience au sujet du pillage des collections nationales en Afrique centrale. Alors, je voudrais rajouter à la présentation qui était faite tout à l'heure que je suis directeur du musée d'ethnographie de la ville de Genève depuis un peu plus de 2 ans, mais je suis également président fondateur de la commission de déontologie des musées de la ville de Genève, et également enseignant, j'enseigne l'anthropologie religieuse en faculté des lettres ici à l'université de Genève, où j'ai l'occasion notamment de traiter de ces sujets avec mes étudiants. Je suis également membre de la commission d'éthique d'ICOM Suisse depuis mon arrivée à Genève. Alors, je me suis occupé effectivement depuis un certain nombre d'années de questions de transfert illicite de biens culturels, notamment en provenance d'Afrique et en particulier d'Afrique centrale. Mais depuis ma prise de fonction au musée d'ethnographie de Genève et mon rôle dans la commission déontologie, je traite également d'autres cas de demandes de restitution, notamment avec la Nouvelle-Zélande. Le musée d'ethnographie possède encore d'une certaine manière un Te Mokoi, donc une tête momifiée maori, et je me suis également occupé du cas du retour au pays d'origine de momies précolombiennes, de culture Chinchorro, voilà, dont une partie du dossier était bouclée l'année passée. Alors, je vais aujourd'hui évoquer quelques aspects de mon expérience concernant les mouvements, si vous voulez, aller-retour de ces collections d'objets ethnographiques en provenance d'Afrique centrale. Mon but ici n'est pas d'être exhaustif, mon but n'est pas de vous asséner de grandes vérités, je n'ai pas de grandes théories non plus. Le but est avant tout de partager un certain nombre d'informations, de vous poser quelques questions concernant les possibilités d'avenir et de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Alors, effectivement, je vais vous parler des collections congolaises, RD Congo, mais également des collections nationales zambiennes et des collections nationales angolaises. Alors, mon expérience autour des collections congolaises est probablement la plus importante. J'ai eu la chance, le privilège de pouvoir commencer ma carrière et travailler 11 ans au Musée royal de l'Afrique centrale, à Tervuren, près de Bruxelles, où d'emblée, dès mon arrivée en 1996, j'ai commencé à travailler sur l'histoire des collections, l'histoire de leur appropriation, très souvent violente, mais aussi l'histoire de leur utilisation, leur exposition et leur interprétation dans le contexte muséal. Alors, appropriation violente, aussi destruction in situ, auto-da-fé par les missionnaires, destruction par les militaires. J'ai aussi essayé de travailler sur la manière dont les collectes étaient faites, par qui, par les missionnaires, les administrateurs, les militaires, et finalement, seulement dans un très faible pourcentage, moins de 2% des missions scientifiques. Alors, ce faisant, je me suis vite aperçu que la récolte ou l'appropriation des collections ethnographiques était très souvent liée non seulement à la violence, mais aussi à des restes humains. Alors là, c'est un sujet extrêmement intéressant parce que s'il y a une véritable amnésie en Belgique par rapport au passé de la science qui était l'anthropologie physique, en tout cas appliquée au sujet colonisé. Et il a fallu notamment, il m'a fallu près d'une dizaine d'années pour retrouver ici le crâne d'un chef Tabwa, donc de l'est du Congo, qui avait été tué, assassiné proprement avec préméditation par un lieutenant belge, le lieutenant Storms, en 1884. Alors, crâne que je cherchais depuis des années, que j'ai retrouvé à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, et à ma grande surprise, que je n'ai pas retrouvé seul, mais accompagné d'une demi-douzaine de ses condisciples, à savoir les autres chefs de l'ethnie Tabwa. Ce faisant, j'ai aussi travaillé sur les rapports entre ethnographie et historiographie, à savoir comment les objets étaient présentés, comment les objets, une fois arrachés à leur contexte, ont été utilisés dans les muséographies coloniales et comment ils sont encore aujourd'hui présentés. Alors, ça avait fait l'objet d'une exposition assez polémique en 2000-2001 qui s'intitulait Exit Congo Museum, qui mêlait ethnographie et art contemporain. Et les questions se posent encore aujourd'hui. Quand on va au musée de Tervuren, on retrouve, et c'est un aspect qui est volontaire, me dit-on, mais on retrouve par exemple une vitrine pratiquement inchangée depuis 1978, qui présente les reliques, si vous voulez, de ce même lieutenant Storms qui a assassiné avec préméditation une demi-douzaine de chefs tabois qui lui barraient le chemin, si vous voulez, dans la région du Tanganyika. Je me suis également intéressé au rapport entre la collecte ethnographique, la collecte des restes humains, donc, qui était collectionnée non seulement pour le côté scientifique, mais aussi par des amateurs de squelettes. On retrouve dans le milieu des collectionneurs, et d'ailleurs encore aujourd'hui, des gens qui collectionnent les deux. Une des plus grandes figures des collections en Belgique était Jeanne Walscott, et sa mère collectionnait les objets ethnographiques et les restes humains. Ça, c'est moi. Je me suis aussi intéressé à la photographie en tant que mode de récolte, mode de collecte, mode d'appropriation de l'autre, non seulement pour les aspects documentaires aussi, comme on voit ici les récoltes faites par l'herpétologue De Witt au Congo dans les années 30, aussi ce qu'on appelle aujourd'hui communément l'ethnopornographie, donc l'appropriation du corps décolonisés, mais aussi ce que la photographie nous apporte comme renseignement sur d'autres pratiques d'appropriation. Et par exemple, vous avez en haut à gauche, par exemple, un directeur du musée de Tervuren, Franz Olbrecht, qui dans les années 50 recevait une délégation de Congolais à qui il exposait et à qui il expliquait les moulages faits sur le vivant, représentant les bus, les torses, les fesses des compatriotes de ces gens qui venaient. Donc j'ai travaillé, si vous voulez, sur tous ces aspects des collectes. Il y a quelques publications, je peux vous en donner la liste, mais quelques clics de Google vous les donneront. Et même si ce sont des travaux que j'ai largement laissés en suspens depuis 2005, je travaille toujours sur un article qui devrait être publié l'année prochaine et qui va faire un peu la synthèse de ces travaux. Alors, avant de revenir aux collections congolaises, je voudrais parler du musée de Livingstone, que j'ai eu la chance de pouvoir visiter et où j'ai pu effectuer des recherches entre 1993 et 2005, dans le cadre de mes recherches de doctorat sur les cultes de possession. Alors, ce musée était particulièrement intéressant parce qu'il était fondé en 1934 et possédait encore en 1993 des collections scientifiques excessivement intéressantes parce que essentiellement réalisées par des anthropologues de ce qu'on appelait la Manchester School, comme Charles White, Victor Turner, Mac Glucksmann, Elisabeth Colson et j'en passe. Collection d'objets, notes de terrain, éléments d'archives, photographies. Outre les collections, le musée disposait, comme c'était aussi l'ex Rose Livingstone Institute, donc Institut de recherche, et ex David Livingstone Memorial Museum, ce musée possédait également des collections historiques importantes. À mon dernier séjour en 2005, des à peu près 20 000 objets que la collection recelait, il ne restait que vraiment très très peu de choses, et y compris les collections de livres et de manuscrits avaient disparu. Alors, ce musée avait d'autres aspects très intéressants, c'est que c'est un des rares musées d'Afrique centrale que je connaisse qui possédait également des collections non européennes, des collections d'autres pays d'Afrique, notamment d'Afrique australe, mais aussi des collections du Pacifique et de l'Inde qui avaient été apportées pendant toute la période coloniale par d'anciens administrateurs. Alors, si quelques objets comme le masque Luena que vous voyez en bas à gauche ont défrayé la chronique parce qu'en l'occurrence celui-ci a été un jour retrouvé sur le marché à Bruxelles et a pu être restitué, dans l'ensemble, à part ces quelques objets qui ont été récupérés, l'essentiel de la collection a aujourd'hui disparu. Ce qui reste de la collection est en piètre état de conservation, en haut à gauche un masque de la région des Lozi, de l'ouest du pays. Alors dans les années 90, il y avait un projet assez intéressant qui était de redévelopper les collections avec des objets contemporains. Et alors une pratique qui était à ce moment courante et qui soulève d'autres problèmes d'éthique, c'est que le musée s'était mis à acquérir en fait toutes les saisies faites par la police, un certain nombre d'activités rituelles désignées comme étant activités de sorcellerie étant interdites, les polices saisissent régulièrement des objets matériels comme ce, en bas à droite, cette espèce de téléphone, outil de communication ou d'autres objets de sorcellerie. Ensuite, le musée national d'anthropologie de Luanda, dont je connais les collections à distance, car j'ai eu l'occasion de travailler et d'étudier pendant un peu plus d'un an à l'université de Coimbra, où se trouvent les archives de la Diamang, qui était la compagnie minière qui avait fondé ce musée en 1936 au nord-est de l'Angola, et parce qu'également au musée de Tervuren existe une copie de l'inventaire de l'essentiel de ces collections. Alors, ce qui est intéressant par rapport à cette collection, donc, qui est également très ancienne, des années 30, comme celle du musée de Livingstone, c'est qu'en période coloniale et jusqu'en 1975, les conservateurs du musée et leur autorité jugeaient que les collections sur place étaient disponibles pour l'acquisition sur place, étaient insuffisantes, et c'est un des rares musées qui était activement engagé dans l'achat de collections ethnographiques en Europe pour les renvoyer ensuite au musée du Dundu. Alors, un problème déclaré à Luanda, c'est que pendant la période vers la fin des années 80, je n'ai pas les dates précises, une partie des objets les plus précieux qui se trouvaient au musée du Dundu, donc dans le nord-est de l'Angola, sans doute plus de 1000 km de Luanda, une partie des objets les plus précieux ont été transférés à Luanda, où manifestement une bonne partie ont été volés, puisqu'ils se retrouvent aujourd'hui largement répandus dans les collections privées. On les voit de temps en temps sur le marché de l'art, on les retrouve dans les collections privées, mais aussi dans les collections publiques, notamment aux États-Unis. On les retrouve régulièrement dans les catalogues. Le dernier objet que j'ai vu, je l'ai vu ici à Genève dans une galerie, objet publié dans le recueil de Marie-Louise Bastin sur l'art choqué, publié en 67 ou 61, je ne sais plus. Alors, je veux, avant de passer à la question des collections nationales du Congo, dire que ce qui relie les trois exemples que je donne, le Congo dont je vais parler, l'Angola et la Zambie, c'est le problème des inventaires. On a beau pouvoir retrouver sur le marché, quand on a un œil, quand on connaît les collections, quand on a pu avoir accès à des publications, qu'on sait les reconnaître, on peut facilement retrouver un grand nombre d'objets. J'ai eu au cours de ma carrière à Tervuren identifié plusieurs dizaines d'objets et des sources pouvant mener à beaucoup plus d'objets encore en provenance de ces trois musées, sans jamais avoir pu obtenir de restitution ou de saisie véritable de collections importantes. Tous les retours qui ont été faits, les objets qui ont pu être récupérés, l'ont été sur une base volontaire de la part des détenteurs. Alors, l'Institut des musées nationaux du Zaïre et puis ensuite Congo est un institut que je connais pour avoir contribué au programme de collaboration entre le Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren et l'Institut des musées nationaux du Zaïre au début et puis du Congo assez vite par la suite, entre 1999 et 2005. Alors, l'état des collections, quand je suis arrivé là pour la première fois en 2000, était assez catastrophique. Alors, beaucoup de choses ont été faites pour améliorer les conditions de conservation, notamment au travers de la collaboration, mais le mal, quelque part, était fait. Vous voyez sur la droite, une partie énorme de la collection a été dérobée. Alors, j'ai 10 minutes. Ok. Petit historique, ce qui est intéressant par rapport à ce musée à Kinshasa, ou plutôt ses collections, parce qu'il n'y avait pas, en tout cas j'ai appris qu'une galerie avait été récemment ouverte, de véritable musée, c'est que c'est une collection qui a été établie sur base d'abord de l'ensemble des musées, anciens musées coloniaux, il y en avait près d'une demi-douzaine dans le pays, fondée grâce à la coopération avec le Musée royal de l'Afrique centrale sur une idée qui était discutée à partir de 1967, donc avant la convention UNESCO de 1970. L'Institut lui-même est fondé en 1972, il est placé directement sous l'autorité de la présidence du Zaïre. Puis Pierre Demaret me corrigera s'il y a des erreurs, je pense qu'il connaît mieux cette histoire que moi. avec pour direction de cet institut le directeur du musée de Tervuren et puis ensuite un autre Belge, le frère Cornet. Le musée se développe assez rapidement, des collections sont faites, notamment grâce à l'aide de la coopération belge, et c'est près de 50 000 objets qui sont récoltés vers le milieu des années 70. Vient s'ajouter, et c'est là un point très intéressant du point de vue de la logique et du droit, viennent s'ajouter à ces objets récoltés sur le terrain un don de la Belgique, un transfert du nord vers le sud, un transfert d'objets qui étaient conservés à Tervuren et qui furent envoyés au Congo pour compléter cette collection. Alors ce transfert devait consister d'abord de 200 chefs-d'œuvre, 200 pièces maîtresses faisant partie de la collection du musée de Tervuren. Venait s'ajouter à cela près d'un milieu, un peu moins d'un millier d'objets récoltés sur le terrain par des scientifiques en période coloniale, à savoir des personnes comme Jacques Maquet, Luc de Hoche, Yann Van Sina, donc des objets excessivement bien documentés dont l'inventaire et l'ensemble des données se trouvent encore aujourd'hui à Tervuren. Alors ce qui se passe, et ça c'est intéressant, c'est que très vite au musée de Tervuren il y a Maldon, les conservateurs ne s'entendent pas et la liste des 200 objets, des 200 chefs-d'œuvre est vite altérée, et si les premiers envois consistent en des objets de qualité, dès le deuxième et troisième envoi, des objets de qualité sont remplacés par d'autres. Il y a aussi des inversions, il y a des changements. Donc déjà là on a un problème. Ce qui se passe aussi dans la Maldon, c'est que les objets envoyés de Belgique vers le Congo devaient faire l'objet d'une désaffectation. On a déjà parlé aujourd'hui d'inaliénabilité, donc la collection devait être donnée, il devait y avoir une décision politique de transférer la propriété. Or, ceci n'a jamais été fait, on en est resté au projet de loi. Alors, d'un point de vue factuel, jusque la chute de Mobutu en 97, très peu d'objets sont sortis, quelques dévoiements. J'ai pu récolter des histoires, on disait que de temps en temps, Mobutu pouvait donner l'un ou l'autre objet. C'est dans ce contexte que sort le fameux masque poids qui se trouve toujours sur, enfin, sans doute aujourd'hui, il y a été pendant très longtemps sur les billets de banque du Congo, un masque en bois féminin. Mais c'est surtout à partir de la chute de Mobutu en 1997 que des pillages importants ont lieu. D'abord, on pille de manière indiscriminée, c'est le mobilier qui part, puis c'est ensuite les pagaies qui servaient aux gens pour traverser le fleuve et s'enfuir. Mais ensuite, un pillage systématique des collections, tous les ivoires, la sculpture, tout ce qui vaut quelque chose a été pillé. Alors, dans notre programme de collaboration Tervuren-IMNC, nous avons financé la réalisation d'inventaires. Je conclue en 3 minutes. Programme qui n'a jamais pu être mené à bien, pour des raisons techniques, c'est qu'au fur et à mesure qu'on travaillait sur l'inventaire, cet inventaire disparaissait, le matériel pouvait disparaître, et puis qu'il y a également une grande réticence, finalement, à aller de l'avant dans ce travail. Alors juste pour conclure, moi ce que je vois c'est qu'on a des musées qui ont disposé d'un capital et de collections excessivement intéressantes, que techniquement la réalisation d'inventaire et la diffusion de cet inventaire permettrait de retrouver, d'identifier, c'est vraiment pas compliqué, vous allez au parcours des mondes, vous êtes sûr de trouver des objets qui viennent de ces musées, vous allez partout où ça compte, vous en trouverez. Et le deuxième problème est que, à ma connaissance, seuls quelques très très rares cas de plaintes ou de demandes de restitution ont jamais été faits par les gouvernements en question ou par les musées. Et c'est ainsi que, quand j'étais au musée des Tervuren, toutes les déclarations que j'ai pu faire à l'ensemble des autorités judiciaires, de police, académiques et autres ont été classés sans suite. Et seules les personnes qui ont désiré volontairement restituer un objet l'ont fait. Et il s'agissait uniquement des quelques objets qui provenaient de la collection du musée Tervuren et qui ont été renvoyés au musée Tervuren, mais bien sûr pas au Congo. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je suis là pour plus de détails. Merci.
Merci beaucoup aussi pour attirer notre attention sur l'importance des inventaires. Il y aura certainement, je pense, des questions sur